Regardez voir. La photo sur France Inter.
Il est grand temps pour Regardez voir de recevoir Valérie Belin, photographe, plasticienne, d'autant qu'en ce moment, on peut, aux rencontres d'Arles, découvrir ces 8 portraits photographiques féminins de grand format en noir et blanc, Painted Ladies, avec un livre d'artiste du même nom qui est édité chez Xavier Barral. Même si nous prenons des photos, nous les utilisons, nous les détournons, nous ne sommes pas tous confrontés aux artistes qui en font profession, car ils exposent dans les plus grands musées du monde et dans des prestigieux lieux de l'art contemporain. Ils sont achetés par des collectionneurs, ils semblent loin tout en étant proches quand on est à quelques centimètres de leurs œuvres. Valérie Belin a exposé ses premières photos au début des années 90. Elle a eu, par exemple, une rétrospective à la Maison européenne de la photographie à Paris en 2008, puis au Centre Georges Pompidou en 2015, une autre à Moscou en 2013. Enfin bref, je peux pas citer toutes ces expositions, ni les prix Justin, le prix Pictet en 2015, ni les collections et les institutions qui achètent ses œuvres. Alors, je suis ravie de vous proposer cette rencontre avec Valérie Belin, qui est tout près de vous dans Regardez voir.
Regardez voir, Brigitte Patient, sur France Inter.
Bonjour Valérie Belin.
Bonjour.
Je ne peux pas citer effectivement toutes les expositions, il en manque dans la petite liste que j'ai constituée. Vous exposez dans le monde entier.
Oh, écoutez, j'ai beaucoup de chance, oui, mon travail est bien représenté, bien exposé.
À quel moment, d'ailleurs, il a été reconnu ?
À l'orée des années 90. C'était aussi un très bon moment pour la photographie, parce que c'était encore un médium qui arrivait dans le champ de l'art contemporain. Et je pense que j'ai profité de cet essor, et voilà, j'ai eu de la chance.
Alors, vous avez au départ suivi une formation artistique à l'École nationale des beaux-arts de Bourges, puis ensuite des études en philosophie de l'art à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander si vous avez encore dans votre tête une image de Bourges, parce que je suis de Bourges.
Oh, je n'ai pas seulement une image, j'en ai beaucoup. Ça a été pour moi une période formidable. Je suis restée 3 ans à l'École des Beaux-Arts. L'image qui me reste, c'est le chemin de la gare à l'école, le lundi matin, en passant par les jardins de l'Échevêché, par exemple, la cathédrale qui est magnifique, et cette école qui était vraiment, et qui est toujours, je pense, un lieu extrêmement privilégié pour les étudiants.
Conseilleriez-vous à un jeune homme ou une jeune femme qui envisage d'aller vers la photographie ce parcours, les Beaux-Arts de Bourges, qui est un parcours très ouvert, ce n'est pas une école de photographie, ce sont les Beaux-Arts, puis ensuite la philo?
Écoutez, moi j'ai pas beaucoup réfléchi à ce que j'allais faire, les choses se sont enchaînées très naturellement. Aux Beaux-Arts, en fait, la formation c'est celle d'être un artiste, vous allez être un artiste, donc on va vous apprendre à être un artiste, et qui en soi, effectivement, ça s'apprend pas, et en même temps, il y a quand même des tournures à adopter. Mais tout ça s'est fait de manière relativement inconsciente. Et la philosophie de l'art, c'était en relation étroite avec ma pratique artistique. Et donc, pour moi, c'était une manière d'opérer une transition entre la sortie de l'École des Beaux-Arts, qui est un lieu très protégé, et la vie active, la vie réelle, où tout d'un coup on est livré à soi-même et on n'a plus cette espèce de rassurance de l'encadrement d'une école. Mmh. Donc la philosophie, c'était plutôt la philosophie de l'art avec un aspect ou alors un point de vue très très resserré sur une période de l'art moderne qui m'intéressait.
Laquelle ?
Alors en fait j'ai étudié, d'ailleurs c'est pas de l'art moderne, c'est entre l'art moderne et l'art contemporain, l'art minimal américain, et je voulais comprendre pourquoi et aller plus loin.
Est-ce qu'on pourrait connaître des noms pour savoir si au moins on connaît des artistes de l'art minimal ?
Alors l'art minimal, il a été représenté principalement par Robert Morris, Richard Serra, Frank Stella.
Mais en deux mots, c'est quoi l'art minimal ?
L'art minimal, c'est un art qui réduit la forme artistique à quelque chose de très simple, à des formes très simples, où toute la subjectivité, le geste de l'artiste est absolument totalement évacué. Donc pas de pathos, pas de geste, pas de narration. à la limite pas d'émotion, ceci dit, ça ne peut pas l'être, mais une sorte de réduction de la forme à son minimum.
Est-ce que si je dis art conceptuel, c'est un peu dans ce sens-là ?
On peut les rapprocher, oui, on peut les rapprocher. Mais l'art minimal est quelque chose qui prend forme, alors que l'art conceptuel, finalement, pourrait se réduire à des énoncés. Donc, c'est un peu différent.
Alors, en 1994, je reviens à votre œuvre, Valérie Belin, vous exposez pour la première fois votre travail à Paris et vous représentez des objets. Ça commence comme ça, votre travail, par des objets. Alors, il y a la série qui s'appelle Cristal, hein, ce sont des objets de verre qui ont comme chose intéressante de travailler dans votre photographie avec la lumière. Et puis ensuite, vous photographiez des robes en 96, et puis de la viande en 98, et puis des voitures encore en 98. Vous travaillez beaucoup d'ailleurs, vous bossez non-stop. Hein. Quand je regardais sur votre site toutes vos séries, mais c'est impressionnant. C'est votre vie donc, de A à Z, la photographie, ou en tout cas votre art.
Oui, bien sûr, comme pour tous les artistes, je pense.
Oui, mais vous êtes très productive.
Oui, comme tous les artistes, à l'exception de Marcel Duchamp peut-être. Mais il se retenait, il faisait exprès, donc c'est compliqué.
Alors donc, au départ, ce sont des objets. On va voir qu'au fur et à mesure de votre vie, de votre parcours, petit à petit, la figure humaine arrive. On a l'impression qu'au départ, mais vous ne pensez surtout pas à photographier, à faire une œuvre d'art avec une figure humaine.
Oui, en fait, là encore, c'est à cause de la formation que j'ai eue aux Beaux-Arts, qui était très liée à cet art minimal dont on parlait. La représentation humaine était très taboue à l'époque. L'enseignement que j'ai reçu ne me permettait pas, en quelque sorte, de représenter l'humain. Et donc, je suis sortie de l'école avec cette perspective de repeupler mon univers. Et ça s'est fait à travers les objets, effectivement. Par exemple, vous parlez des verres en cristal. Pour moi, ces objets étaient comme des métaphores d'un corps transparent qui aurait été traversé par la lumière. Ils étaient photographiés à la manière d'un portrait. Même chose pour les carcasses de voitures, les voitures accidentées. Pour moi, c'était un objet qui, par des chemins détournés, me permettait d'évoquer l'humain, par un effet d'absence, évidemment.
Même chose pour les robes.
Même chose pour les robes, qui étaient des robes vides, mais pour qu'elles ne s'abîment pas, la robe en dentelle était bourrée de papier, de soie, de manière à ce que la fibre ne se casse pas, et donc on avait l'impression qu'elles étaient habitées.
Vous avez bien dit le mot étrangeté. Vous l'avez prononcé ? Non, je me questionne tout d'un coup.
Pas encore.
Ah, mais je l'ai entendu parce que je voulais faire un enchaînement en vous disant que quand vous avez exposé au Centre Georges Pompidou en 2015, une exposition qui s'appelait « Les images intranquilles », tout le monde a fait référence, et vous d'ailleurs aussi, au concept d'inquiétante étrangeté de Freud qui, en 1919, écrivait ces mots « Qu'Adèle Van Rett sur France Culture a lu écouter ».
Le lieu où l'intime se change en ombre déchirée et où le vivant et l'inanimé échangent leur place, c'est celui de l'inquiétante étrangeté. Étrangeté d'autant plus angoissante qu'elle se loge dans ce qui nous est le plus familier. Car ce que nous nommons le familier est-il ce que nous connaissons le mieux? Que penser du domestique, de l'intime, du chez-soi? Parce qu'ils sont proches de nous, sont-ils pour autant connus de nous? La vie ordinaire, dans ce cas-là de plus répétitif et banal, n'est-elle pas la meilleure doublure de l'inconnu qui sommeille en profondeur, satisfait de savoir que c'est en lui que se joue l'essentiel? Et si l'étrange n'était pas une exception, mais la règle de notre rapport au monde?
Valérie Belin, tout votre travail est là, n'est-ce pas?
Oui, on peut dire ça.
On peut le résumer ainsi, l'étrange et la doublure. Alors, tout à l'heure, on était, avant d'avoir écouté ces mots écrits par Freud en 1919, on parlait des objets, de cette figure humaine qui était juste évoquée. Et en 99, la figure humaine apparaît dans la série des Bodybuilders, c'est bien cela?
Oui, c'est ça. En fait, les Bodybuilders m'ont permis d'aborder la figure humaine, puisqu'ils étaient dans un état un peu transitoire entre l'objet, le robot et l'humain, en quelque sorte. Ce sont un peu des êtres humains métalliques. Et donc, je les ai choisis pour ça, pour opérer cette transition entre l'objet et l'humain.
Ce sont un peu des machines de guerre, hein ?
Oui, enfin des machines tout court, parce que l'hypertrophie de leurs muscles n'a pas de... d'utilité. Enfin,
autre que l'image.
Autre que, voilà, autre que le reflet de soi-même dans son miroir, oui.
Oui. Est-ce que dans cette série, par exemple, mais on pourra tout à l'heure aussi parler de la série avec Michael Jackson, est-ce que vous dénoncez l'image des corps dans les médias? Est-ce qu'il y a un message militant à recevoir?
Non, je n'ai pas du tout une position discursive. Je suis... À une époque, je disais que j'étais toujours au centre de mes images, même dans le cas des bodybuilders, à savoir que finalement, je partage avec eux quelque chose, j'ai une empathie avec mes sujets, et je ne suis jamais dans la position d'un observateur, et encore moins d'un critique, aussi étrange que cela puisse paraître.
Ah là, vous avez quand même bien prononcé le mot « étrange ».
If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care. If he has Coco Bay, he can commit murder and get off free. Live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. At the door, Carlton lads to take down anything, whiskey cloth earring and diamond ring, send it to your home on a motorbike, you can pay the bill whenever you like, and not a soul will ask you a thing, they know very well that money is king. A good breed and not too wild, people will take it in mind as a child. But when a hungry man goes out to beg, they send a bulldog behind his leg. 20 policemen will take him down too. You see how a dog is better than you.
S'appelle Leila Makkala. Elle est dans la playlist de l'été de France Inter avec ce titre Money is King.
Regardez voir Brigitte Patient. La photo sur France Inter.
Regardez voir avec Valérie Belin, notre invitée cet après-midi sur France Inter. Vous êtes Valérie, je l'ai dit, on en reparlera, exposée aux rencontres d'Arles. Ça veut dire qu'on peut aller voir ces Painted Ladies dont on parlera tout à l'heure. Là, j'aimerais qu'on regarde un peu cet humain qui arrive dans votre œuvre. Alors, tout à l'heure, on a parlé de ces hommes hyper musclés que vous avez photographiés en noir et blanc. Et puis, on est toujours en noir et blanc avec la série de Michael Jackson qui est fascinante parce que moi, quand je l'avais vue, sans doute au Centre Pompidou, hein, quand vous avez eu cette grande exposition en 2015... C'est vrai, comme tout spectateur, je ne savais pas s'il s'agissait de Michael Jackson que vous aviez détourné, bougé avec des retouches, ou alors des sosies, ou alors des peintures, des dessins. Comment vous procédez ?
Bah, en l'occurrence, pour cette série des sosies de Michael Jackson, donc, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur l'idée de la ressemblance. Et donc, j'avais commencé par photographier des sosies de différentes célébrités, mais ça ne fonctionnait pas. On voyait des gens et on se demandait à quoi ils ressemblaient. Et donc, je me suis dit que Michael Jackson, étant donné toutes les modifications qu'il avait opérées sur lui-même, était déjà une sorte de sosie de lui-même et qu'il suffisait de mimer ces transformations pour pouvoir lui ressembler. Et de fait, les 5 sosies de cette série sont tous différents, mais ils ressemblent tous à Michael Jackson et s'opère comme ça une espèce de duplication dans la série. Et ce que j'ai aussi voulu montrer avec Michael Jackson, c'est aussi cette espèce de, comment dirais-je, de pouvoir destructeur du stéréotype à travers ce personnage qui est Michael Jackson lui-même et qui a voulu mimer en quelque sorte le stéréotype de la beauté blanche et qui donc a opéré sur lui ces transformations. Et dans cette série, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gueules cassées en fait. On voit vraiment la destruction du mimétisme en fait.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous prenez pour le coup là des sujets, enfin Michael Jackson par exemple, c'est un sujet qui nous concerne tous, que nous connaissons tous, mais vous l'avez fait d'autres fois dans votre œuvre avec les masques de carnaval, les paquets de chips, toute la série sur les paquets de chips, les magiciens, les danseuses du Lido. Vous n'hésitez pas à prendre, des éléments de notre culture qui est très très populaire.
Oui, en fait, je suis très intéressée par une sorte de l'aspect vernaculaire de nos sociétés, tout ce qui a trait à la consommation de masse, à ce qui nous environne en fait, et surtout à la représentation de soi dans notre monde qui est celui d'aujourd'hui. Et donc c'est vrai que tous les gens que je photographie, finalement, ce sont des gens qui ont ce désir d'être quelqu'un d'autre, que ce soit les bodybuilders, les Michael Jackson et d'autres sujets comme ça, ou les transsexuels aussi. Oui. Donc il y a cette constance de la transformation de soi, de la représentation de soi, la danseuse du Lido, quelqu'un qui est fait pour être regardé, comme ces objets que j'ai photographiés sont dédiés au regard, à la vue, et donc quelque part sont dédiés à la photographie aussi. C'est très important pour moi de travailler avec ces matériaux-là, qui sont des matériaux dédiés à la vision, à la vue, au spectacle.
Quand est-ce qu'arrive la couleur dans votre œuvre, en 2006 en fait, je crois?
Oui, la couleur arrive en même temps que l'outil numérique, en fait. Parce qu'avant l'apparition du numérique, des outils de post-production comme Photoshop, etc., il m'était très difficile d'avoir la même liberté que celle que j'avais auparavant avec le noir et blanc pour interpréter mes images. Et tout d'un coup, avec Photoshop, cette espèce de maîtrise de la chromie de l'image m'a paru une porte ouverte à utiliser la couleur. Donc ça a été en 2006 avec la série des modèles 2 qui montre des jeunes mannequins d'agence, hommes et femmes, dont on doute de la réalité en fait.
Oui, de toute façon on doute tout de même toujours devant vos photographies.
Oui, mon travail est fait du doute et montre le trouble en fait.
On va regarder une photo si vous voulez. Alors, c'est une photo qu'un producteur de France Inter regarde et il ne sait pas d'où elle vient, qui est l'auteur de cette photo. Il s'appelle Ali Rebéi, il est producteur de l'émission Grand Bien vous fasse. Et il la regarde, cette image, et il dit ceci. Écoutez Valérie Belin.
On aperçoit une jeune femme, cheveux très lisses, très lissés, très brillants. Il y a un dessin, donc en surimpression, peut-être une page de bande dessinée des années 50 qui semble se dérouler peut-être dans un diner américain. On voit un personnage en pleurs, une larme. Elle porte un uniforme d'une serveuse dans un diner. Alors oui, on s'aperçoit que c'est sans doute la couverture d'un illustré bon marché, populaire, qui met en scène des romances, des histoires d'amour dessinées. Et alors peut-être que la jeune femme que j'ai décrite au début a l'air mélancolique, elle est peut-être en train de lire ce type d'illustré. En tout cas, il y a une résonance entre sa tristesse, sa mélancolie, elle sort peut-être d'une rupture, il y a une sorte de résonance entre les deux. En tout cas, cette photographie provoque à la fois du malaise, parce que c'est vrai que cette surimpression d'une photographie sur la couverture d'un illustré populaire est un peu déstabilisante. En tout cas, il y a un écho entre le personnage photographié et le personnage de fiction en pleurs. Si je distingue, oui, tiens, je finis par distinguer le titre de l'illustré, Love Lorn, parce que ça apparaît pas au premier regard. Hein.
Valérie Belin, avez-vous reconnu des mots bienfaisants pour votre œuvre? Malaise, déstabilisant, mélancolie?
Oui, je pense que c'est tout à fait juste. En fait, dans ce travail, la série des All-Stars, j'ai travaillé des portraits de jeunes filles que j'ai stylisées dans un style un peu dépressif, comme ça, avec une lumière très contrastée, des attitudes en retrait, comme ça, intériorisées. Et ces jeunes filles sont effectivement ensuite mélangées à des couvertures de comics américains des années 50 qui montrent une scène avec une histoire, un aspect narratif. Et donc cette jeune femme, ce portrait, pourrait à la fois appartenir à cette couverture, en être l'héroïne, et en même temps, elle est totalement étrangère à la naïveté de la narration qui est signifiée par la couverture. Donc il y a un espèce comme ça de trouble qui est lié à cette rencontre et à cette absolue séparation. Ce qui fait qu'au final, on a l'impression que le comics est une sorte de métaphore du chaos psychologique du personnage, en fait.
Quand vous photographiez vos sujets, vos modèles, hein, que ce soit les Michael Jackson ou là cette jeune femme, vous êtes en studio?
Oui, tout à fait. Je travaille dans mon atelier avec des flashs. Je travaille jamais en lumière du jour pour les portraits, en tous les cas. Donc, je suis en condition d'un shooting avec beaucoup de lumière. Voilà, il me faut beaucoup, beaucoup de lumière.
Et alors, il me semble, en regardant votre travail, que la partie la plus importante, même si la prise de vue est très importante, c'est après. C'est en post-production, quand vous êtes dans le labo et que vous... Enfin, dans votre labo, sans doute, et puis après, chez Picto, j'imagine, et que vous travaillez l'image.
Oui, c'est-à-dire que depuis quelques années, depuis les années 2010, avec voilà l'évolution de l'outil numérique et l'évolution de la photographie elle-même, de l'outil, j'ai été moi-même amenée à évoluer vers un travail qui se fait à 50% à la prise de vue et à 50% à la post-production. Et c'est vrai qu'il y a un déplacement du curseur par rapport à mes débuts où là j'avais un négatif noir et blanc, un agrandisseur et puis c'était tout. Mais on avait déjà l'impression qu'il y avait une forme de manipulation donc qui se faisait à la prise de vue par le choix de l'optique que j'allais utiliser, le choix de la lumière, du cadrage, enfin des actions éminemment photographiques qui décalaient déjà le sujet vers autre chose, vers une vision absolument pas naturaliste. Mmh. Et ça s'est accentué, ou en tous les cas ça s'est confirmé avec l'outil Photoshop par exemple, qui a été dans le sens de mon travail.
Voilà. Oui, c'est ça. Cet outil-là, Photoshop, le numérique, ne vous a absolument pas arrêté dans votre parcours.
Non, parce
au contraire.
Que, voilà, il y avait déjà une sorte de recherche d'une sophistication, ou en tous les cas d'un décalage avec une vision soit documentaire ou soit perspectiviste.
Et quels sont les métiers qui interviennent avec vous? Bon, alors vos assistants quand vous êtes en studio, les modèles que vous choisissez, mais après?
Après, principalement, il s'agit de la post-production. Donc je travaille avec la même personne depuis 15 ans, qui est un retoucheur, puisque c'est le terme qu'on utilise, et qui va être un peu comme mon chef opérateur ou mon monteur en cinéma, l'équivalent de ces gens-là, et qui va donc manipuler une machine qu'il connaît très bien, qui est cet ordinateur avec ce logiciel qu'on appelle Photoshop, et que je ne veux pas moi-même maîtriser trop, parce que sinon ce serait un autre métier. Et je ne pourrais plus avoir la vision que j'ai sur le travail en train de se faire. Et je ne pourrais sans doute plus prendre de décisions. J'ai besoin de cette intermédiaire, de cette distance pour faire les bons choix avec cet outil.
Peut-être vous pouvez nous donner son nom de cet homme. On ne parle jamais des retoucheurs.
Oui, alors il va beaucoup m'en vouloir parce qu'il est très discret. Mais en tous les cas, il s'appelle Pascal Brunel. Voilà, il travaille chez Picto et il est un grand virtuose de l'outil. Et c'est quelqu'un aussi qui a une culture qui nous est commune et donc on est sur la même longueur d'onde.
Ça tombe bien.
Voilà.
Viens, mon ami. Partons le cœur léger, la route est longue. Avant midi, nous devons arriver, la route est longue. Longtemps j'ai douté, longtemps je l'ai redouté. Le moment est arrivé de te dire adieu, de te conduire en heure et lieu. Oh les cœurs, avançons, il ne faut pas faiblir, la route est longue. Avant midi, l'affaire sera réglée, la route est longue. Combien j'ai goûté ton amitié, jamais n'oublierai nos balades dans les fourrés. Je t'emmène faire un tour, le dernier tour des fossés. Allez, avançons, il ne faut pas traîner, la route est longue. Avant la nuit, je dois être rentré, la route est longue. Combien de sillons labourés, combien de saisons et combien d'acres de blé. Les années, mon vieux, ont passé, que la vie nous a gâtés. Donne-moi ton dernier trot, la route est longue. Avant midi, le glas devra sonner, la route est longue. Longtemps redouté, longtemps je l'ai repoussé, le grand jour est arrivé de t'emmener faire le dernier tour de nos prêts.
Ils sont trois pour ce titre de l'été avant midi. Sébastien Lallemand, J.P. Nataf et Seb Martel.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
Donc, Valérie Belin, nous sommes à Arles. On imagine, nous sommes dans les rues d'Arles et nous allons vers le lieu où vous êtes exposée en ce moment. De quel lieu s'agit-il ?
Les ateliers mécaniques.
Ah voilà, c'est ça. C'est un grand lieu.
C'est un très beau lieu avec une superbe lumière zénitale. Voilà, qui ressemble à un immense musée, donc j'ai beaucoup de chance.
Vous avez beaucoup de chance, et là-bas, nous pouvons voir donc les Painted Ladies, une série de 8 portraits, c'est cela. Donc c'est aussi un livre, je l'ai dit tout à l'heure, avec un texte d'Éric Reinhardt, l'écrivain, c'est publié aux éditions Xavier Barral. Tout cela est en place. J'aimerais qu'on regarde l'une de vos photographies avec la voix d'Eric Oswald, qui, comme tout à l'heure, donc, a pris l'une de vos images. Il n'en connaît pas l'origine, mais il en parle.
J'ai sous les yeux une photo noir et blanc, une photo travaillée, retouchée. C'est un portrait d'une jeune femme avec un regard un peu triste, au moins perdu dans le vague, qui fait une petite moue, avec des cheveux savamment ébouriffés. C'est une photo qui est mise en scène, apparemment. Mais vraiment, ce qu'on voit, c'est que c'est une photo retravaillée. C'est-à-dire qu'il y a une patte de l'artiste qui prend pour support une photo qui a été faite avec un appareil photo et qui ensuite a été retravaillée, ce qui lui donne une texture particulière. La peau, les cheveux de cette jeune femme sont retouchés comme si on avait retravaillé au pinceau dessus. Et ça donne une ambiance très particulière qui sort un peu de la photo traditionnelle. Et ce qui émane du portrait de cette jeune femme, c'est vraiment ce regard perdu dans le vague, un peu triste, un peu mélancolique. Et on se demande à quoi pense cette jeune femme, ce qui l'a touchée. On a l'impression qu'elle est touchée par quelque chose, qu'elle est triste. Donc c'est une photo qui interroge.
Merci Eric Oswald. Alors Valérie Belin, vous qui avez créé cette femme, ce portrait, à quoi pense-t-elle ?
Ben, c'est difficile à dire parce qu'en fait son expressivité est totalement intériorisée. Et c'est justement ce qui m'intéressait dans ce travail, c'est-à-dire créer un personnage en quelque sorte de toute pièce grâce à la peinture qui est ici le maquillage. Et grâce à la mise en scène de ce personnage, puisqu'elle porte des perruques, enfin tout est fabriqué à la manière d'une sorte de Frankenstein en laboratoire, en l'occurrence. Et l'expressivité de cette jeune fille, elle est donnée par le maquillage lui-même, et son humanité réside dans son regard, principalement. Puisque finalement, cette peinture que j'ai apposée sur son visage nie sa réelle existence, si vous voulez. C'est un peu comme des toiles vierges que j'aurais peintes.
Son visage est un support, finalement.
Voilà, les visages de ces mannequins sont des supports à une création de personnages. Et elle pense à rien, elle regarde dans un hors-champ comme ça, qu'on imagine être le hors-champ du monde qui nous environne. Et le travail que j'ai fait en post-production, qui est principalement un travail de travail du noir et blanc, etc., mais tous les fonds sont créés en post-production et évoquent une sorte de vitesse. Il y a un phénomène de vitesse dans ces fonds, l'évocation de quelque chose de rapide et qui évoque en fait l'époque que l'on vit, c'est-à-dire quelque chose de numérique quelque part.
Nous vivons dans un monde d'images et de vitesse. Et est-ce que ces femmes, ces images de femmes ont des noms ? Est-ce qu'il y a des légendes, en bref ?
Oui, elles ont chacune un nom qui est en fait le nom de l'outil qui a servi à faire la peinture, à la fois qui pourrait être l'outil d'un peintre, comme brush.
L'outil numérique ?
Et qui est également l'outil numérique désigné dans Photoshop. Donc il y a une espèce d'équivalence entre la peinture et l'outil numérique, pour moi, dans cette série. Et chacune, donc, est dénommée par l'outil de peinture et de Photoshop qui a servi, en fait, à retravailler l'image.
Comment s'appelle celle-là ?
Celle-ci s'appelle Lady in Painting. Voilà, parce que ce personnage-là est particulièrement pictural, donc elle est dans la peinture, elle est peinture.
Pourquoi avez-vous choisi l'écrivain Éric Reinhart pour écrire ce si beau texte dans le livre qui est édité chez Xavier Barral ?
Mais parce que Éric Reinhart, dans son travail, a une attention portée aux femmes qui est absolument unique, et il les décrit dans toute leur fragilité et toute leur force en même temps. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée dès ses premiers livres, et notamment dans L'amour et la forêt, qui n'est pas son premier livre, mais qui est un livre qui m'a particulièrement touchée. Et donc je lui ai demandé de faire des portraits de femmes, chose qu'il fait éminemment bien. Et donc il a fait des portraits qui sont multiples, un peu comme un sample en musique, et on ne sait plus très bien si chacune de ces femmes n'est pas la même ou pourrait se démultiplier à l'infini. Il y a aussi un trouble dans ce texte.
Et parlez-nous, Valérie Belin, de la conception du livre, qui est très très beau. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, ou il y en a un certain nombre.
C'est un livre qui est numéroté à 800 exemplaires. Le tirage de tête de 1 à 15 comprend un tirage numéroté et signé. Et il a été fait comme un livre-objet, puisqu'il n'y a que 8 photographies dans ce livre. Donc il fallait trouver un déroulé qui fasse du sens et qui signifie un petit peu ce qui se passait dans les photographies elles-mêmes et dans le texte et dans les textes d'Éric Reynard. Donc on a voilà en entrée de livre les textes d'Éric qui sont voilà traduits en anglais mais qui ne se suivent pas correctement d'une traduction à l'autre. Donc il y a déjà un effet de dérapage, de recouvrement qui s'opère dès l'entrée du livre et ce dérapage se continue. Voilà cette espèce de chassé-croisé des images se poursuit avec les images elles-mêmes. C'est un travail qui a été fait par un graphiste que j'admire beaucoup, qui s'appelle Philippe Milot.
Très bien.
Et que je remercie.
Et vous qui parlez de la profusion des images, de la vitesse à laquelle elles circulent, de la reproduction, quand vous créez un portrait comme celui dont on a parlé là tout à l'heure, et que je veux l'acheter, je suis collectionneur, je viens vous voir, j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter un de vos portraits. Combien y en a-t-il d'exemplaires ?
Alors, pour la série des Painted Ladies, il y a 6 exemplaires, plus 2 épreuves d'artiste. Voilà.
Donc, quelle est la différence entre un exemplaire et une épreuve d'artiste ?
L'épreuve d'artiste, historiquement, était destinée à l'artiste. Aujourd'hui, quand une série est très, comment dirais-je, demandée, il se peut que je cède une épreuve d'artiste pour un collectionneur, justement.
Ah, il se peut que ! C'est vraiment selon votre bon vouloir, c'est cela ?
Absolument.
As they drag you by your feet.
Do It Again, c'est Steely Dan qui a vendu, je crois, plus de 40 millions d'albums dans toute sa carrière.
Regardez voir la photo sur France Inter.
Valérie Belin, avant de concevoir vos images, d'être en studio, de faire les prises de vue et ensuite de travailler pendant la post-production, comment concevez-vous vos projets? Écrivez-vous beaucoup? Faites-vous des croquis? Dessinez-vous? Est-ce que vous faites de la peinture pour peut-être faire des images d'abord juste en dessin?
Alors, au risque de vous décevoir, je ne fais rien de tout ça. J'ai quelque chose dans la tête, voilà, une sorte de d'image rêvée, voilà, qui se construit à partir de je ne sais quoi d'ailleurs, à partir de quelque chose que j'aurais pu voir dans un magazine ou d'un film que j'aurais, ou d'un amalgame de choses dans mon esprit. Et après ça, il y a toute une phase de, comment vous dire, il faut laisser passer du temps, voir si cette idée résiste. Si elle résiste, on peut passer à la phase de la production elle-même, c'est-à-dire réunir tous les matériaux dont on a besoin, une mannequin, un décor, des bodybuilders, des sosies, que sais-je. Donc là, il y a la phase qu'on pourrait appeler celle de la prise de vue, qui s'apparente beaucoup à celle du tournage en cinéma. Et puis ensuite vient la phase du montage ou de la post-production. Et là encore, la durée est nécessaire. La durée est nécessaire à chaque étape de ce processus pour passer du doute à la certitude. Mmh. Voilà, pour éliminer toutes les mauvaises pistes et pour être sûr d'être juste par rapport à l'interprétation d'une image ou quoi lui faire dire exactement, comment lui faire dire le potentiel, enfin dégager le potentiel du sujet en fait.
Et vous savez ce que vous attendez du spectateur de vos images ou ça vous importe peu?
Si, ça m'importe, mais je ne sais pas. Enfin, ce que j'aimerais, c'est que ça procure un plaisir esthétique. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais.
On va regarder l'une de vos photos. C'est votre dernière série, il me semble, China Girls.
Oui.
En 2018.
Tout à fait, oui. C'est ma dernière série terminée. Oui.
Et c'est vous là qui allez nous la montrer, cette image, avec vos mots. Alors, j'espère que vous allez réussir l'exercice comme les personnalités de France Inter l'ont réussi. Allez-y, vous nous dites ce que vous voyez. Même si évidemment, hein, c'est un tirage France Inter, donc.
Il est très beau ce tirage. Alors, il s'agit de... La photographie montre une jeune femme qui est assise au sol, enfin agenouillée en quelque sorte. Elle est environnée d'une nature morte au premier plan qui est constituée d'objets très baroques, coupelles, fruits dans des coupes. Elle est assise sur un tissu bariolé qui reprend les motifs de sa robe. Elle a une coiffure qui évoque un peu celle des années 50. Et le fond qui est derrière elle est constitué d'un bouquet de fleurs qui a été photographié en même temps qu'elle dans son décor. Et s'ajoute à cela un certain nombre de surimpressions constituées de fragments de comics américains, toujours le même fragment d'ailleurs qui se répète dans l'image, d'ombres, de zones sombres, de toutes sortes de détails. On aperçoit des typographies qu'on imagine un peu en transparence, qui ne sont pas celles du comics mais d'autres, des feuillages. Voilà, c'est une image très très riche, très dense. Et cette jeune femme, effectivement, encore une fois, est pensive, elle est perdue dans ses pensées. Elle regarde au loin, hors champ, encore une fois.
Et elle ressemble à une poupée de porcelaine. Son visage est comme s'il était en porcelaine, je ne sais pas comment dire autrement.
Oui, en fait, ces jeunes femmes sont quasiment l'équivalent des objets qui l'entourent. Un objet parmi les objets. China Girl est le titre que j'ai donné à la série parce qu'en fait, ça évoque les jeunes femmes qui posaient pour faire des copies à Hollywood, des copies de master, et donc pour étalonner les couleurs en fait, pour faire ses copies correctement. Et donc on les appelait les China Girls parce qu'elles ne bougeaient pas, elles évoquaient la porcelaine, l'objet de porcelaine lui-même. Mm-hmm. Alors Ce qui m'a intéressé dans cette mise en scène, en fait, c'est que la jeune fille, on a l'impression qu'elle va être, comment dirais-je, mangée par le décor, enfin qu'elle va être anéantie par le décor, par la présence du décor. Et c'est une image, là encore, qui est très picturale dans le sens où elle est construite à la manière d'un portrait de la Renaissance, où on a un personnage et un paysage derrière qui n'a rien à voir d'un point de vue de la représentation perspectiviste, qui n'est pas vraisemblable par rapport au personnage. Et ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a derrière elle une construction dont on sent bien qu'elle est fabriquée.
Absolument. Combien y en a-t-il dans cette série ?
Il y a 7 images.
Comment décidez-vous qu'il y en aura 7 et non 12 ?
Ben en fait, il s'agit de savoir quand la démonstration est suffisante et surtout ne pas répéter des images qui seraient moins bonnes ou qui viendraient affaiblir une série en fait.
Comment vivez-vous les rencontres d'Arles ? Vous êtes exposée, vous y allez souvent, vous avez déjà été exposée.
Il y a énormément d'événements, il y a énormément aussi de rencontres possibles parce que beaucoup d'acteurs de la photographie se déplacent, beaucoup de photographes. Donc c'est un moment à la fois de découverte, d'approfondissement et de pure relation humaine aussi.
Merci beaucoup Valérie Belin. Passez une belle fin d'été ou un bon été tout simplement en général.
Merci.
Au revoir. Pour retrouver toute votre actualité, Valérie Belin, vous allez bien sûr sur la page Regardez voir avec franceinter.fr. Il y a le lien avec les rencontres d'Arles. Vous exposez bien sûr jusqu'au 22 septembre le livre édité chez Xavier Barral. Et puis bien sûr le podcast de Regardez voir. Une émission qui a été réalisée par Marco Mutel, attaché de production de Thomas Lehété. La programmation musicale Thierry Dupin et à la technique Paul Percheron. Je vous donne rendez-vous demain à 14h sur France Inter pour une photo mythique, celle de Diane Arbus qui représente deux jumelles. La légende exacte de cette photo, c'est Identical Twins, Roselle, New Jersey, 1967. Et après avoir écouté l'histoire de cette photo de Diane Arbus, Dominique Versavel de la BNF à Paris, bien sûr, sera mon invité. Juste après les informations, vous retrouvez Bachung de l'Aube à l'Aube. C'est un feuilleton des médias francophones publics. Bon après-midi avec France Inter.